Le rocher du Causse est situé à Languedoc, à 30 km au nord de Montpellier. Il occupe la partie sommitale d'un plateau triangulaire rattaché au Causse Lortus. Photo 2. L'extrémité de ce plateau se présente sous la forme d'un éperon rocheux délimité sur les deux côtés par une paroi abrupte. 3. La partie haute de ce relief de proue a été occupée sur un espace limité par un habitat d'âge du cuivre, réinvesti au cours du bronze ancien, tandis qu'au premier âge du fer, un impressionnant rempart a renfermé une surface beaucoup plus vaste. En 4, la fouille du site chalcolithique est actuellement terminée. L'architecture se présente sous la forme d'édifices circulaires reliés entre eux par un mur d'enceinte. Les structures circulaires sont disposées en alternance, intégrées au mur d'enceinte ou en tangente à celui-ci. Leurs ouvertures sont dirigées soit vers l'intérieur de l'enceinte, soit dans une maison. La photo 7. Au niveau architectural, les unités circulaires sont toutes construites avec la technique du double parement et du bourrage interne. À certains endroits, des pierres emboutissent lient les deux parements entre eux. Le remplissage du niveau supérieur montre, comme on l'avait observé également à Boussard, la présence de pierres plates. Ces pierres plates sont le témoin d'une couverture à l'encorbellement. Ici également, les parements des structures sont beaucoup mieux soignés que ceux du mur d'enceinte ou des maisons. Comme à Boussargues, la chronologie relative montre que les structures ont été bâties en premier, suivies du mur d'enceinte et des maisons. Le dégagement de l'ensemble de l'architecture montre qu'un seul accès est donné à l'intérieur de l'enceinte. À l'ouest, c'est la maison 5 qui ferme le dispositif, alors qu'à l'est, une amorce de mur nous indique la fermeture de ce côté-là de la falaise. La photo 11 montre des dispositifs d'accès relativement complexes. La grande habitation 3-6 s'arrête de façon nette à hauteur de l'extrémité orientale de cette maison. Un pied droit bien conservé montre ici un arrêt étudié à la construction pour laisser place à un passage. On observe un autre pied droit vis-à-vis, matérialisé par une lose verticale transversale à 3,30 m de la limite orientale du mur d'enceinte, accolée à l'habitation 3-6. Un système de protection, ce terme doit être entendu dans un sens relativement neutre, fermeture, de cette entrée a été d'autre part réalisée. L'élément essentiel en est la structure circulaire 2, aménagée exactement face à cette large ouverture du mur d'enceinte, et dont l'entrée est exactement orientée vers le sud. Un mur relie l'unité circulaire 2 au mur d'enceinte. Toute possibilité d'accès à l'intérieur se trouvait donc bloquée sur le flanc oriental de la structure 2. Par contre, sur le flanc occidental de la structure 2, un petit mur de développement limité autorise un étroit passage entre la structure circulaire et le mur d'enceinte. On est donc face ici à un accès sophistiqué et à l'intérieur du site. Il reste évidemment à s'interroger sur la signification d'un tel dispositif architectural. Pourquoi avoir réalisé une entrée de bonne largeur pour la barrer ensuite par un système de protection complexe? Une structure circulaire directement reliée au mur d'enceinte d'un côté, ne laissant de l'autre qu'un étroit passage avec celui-ci. Cet aménagement construit à l'avant de l'entrée est-il primaire ou secondaire par rapport au mur d'enceinte? Ne faut-il pas y voir un ajout intervenu postérieurement dans le cadre du fonctionnement du site? Ou le système a-t-il d'emblée été pensé de façon à assurer qu'un passage réduit en chicane pour pénétrer à l'intérieur? Les maisons, c'est le point faible du site. Une seule, la maison 3-6, est intacte. Les dimensions de cette maison sont de 13,50 m de longueur pour une largeur de 3,60 m, ce qui donne une surface de 38 mètres carrés, surface moyenne des maisons Fombouis. Toutes les autres ont subi une telle érosion qu'il n'en reste qu'un tiers. Malgré l'érosion, les résultats sont très intéressants. La fouille de J.S. Calon et de Jean-Claude Rousse a montré que les maisons 3, 6 et 5 avaient subi un incendie et avaient été abandonnées rapidement. La destruction a entraîné la fossilisation du niveau archéologique ainsi que des niveaux correspondant à la toiture. L'étude du sol d'habitat par J.S. Calon montre une aire d'activité autour du foyer ainsi que des aires de stockage. La disposition du matériel reflète les diverses activités. La céramique, l'étude exhaustive est à peine commencée pour le secteur Est. On peut déjà remarquer que les décors sont majoritairement des cannelures, parfois sur des grands vases. La dernière campagne de fouilles a montré la présence de vases à carène multiples que l'on retrouve plutôt dans le Gard. Pour la maison 3-6, la céramique se calque assez bien sur celle de la maison 1 de Boussargues. Le silex, photo 12, même s'il n'est pas surabondant, est bien présent et possède des particularités étonnantes. La provenance est générale et double. La majorité des outillages et du débitage proviennent du bassin de Saint-Martin de Londres, alors que les grandes pièces proviennent du silex de Salinelles. Trois de ces grandes pièces possèdent le lustré des céréales, confirmé par la tracéologie. Le débitage sur silex de Salinelles est absent, ce qui laisse penser que le débitage se fait soit sur les ateliers eux-mêmes ou bien ailleurs. L'outillage est représenté par les grattoirs et les pointes de flèche, mais la dominante vient des pièces bifaciales grossières, en photo, sur la photo 13, qui représentent 80% de l'industrie. Leur grossièreté a longtemps fait penser qu'il s'agissait d'ébauches. La tracéologie, espérons-le, apportera des précisions. La répartition spatiale est liée aux maisons. On les retrouve en grand nombre dans les maisons 17, 16 et 3-6. Il faut noter leur absence dans les zones extérieures. Cette abondance de pointes bifaciales fait penser aux nombreux micro-perçoirs du village de Calcoutique de Jeannuc, commune de Rouet, distant de 5 km à l'Oiseau, ou bien aux centaines de grattoirs du village de Capucin, situé, lui, à seulement 2 km à l'Oiseau. Y a-t-il une spécialisation dans l'outillage ou dans les activités? Les deux, bien sûr, pouvant être liés. La reprise des études de ces sites sera des plus enrichissantes et permettra peut-être de voir sous un jour nouveau ces communautés implantées sur le plateau d'Hortus. L'outillage poli, abondant, sur la photo 14, est surtout présent dans la maison 3-6. L'analyse pétrographique faite par Monique Ric montre qu'elles proviennent des Alpes italiennes. L'outillage lourd est représenté par les meules et les percuteurs. Les broyeurs, molettes et meules proviennent de l'Hérault, distant à 13 km. La faune, peu abondante, est essentiellement représentée par le mouton et la chèvre. Les suinés sont présents, 12%, alors que le bœuf monte à 32%. On constate au chez du Causse la présence de moutons graciles associés à moutons de taille moyenne. La faune sauvage est représentée par le cerf. Les macro-restes végétaux. Ils sont très abondants sur tout le site, soit de façon dispersée, soit en concentration très importante. Dans la majorité des cas, il s'agit de prunelles, en association avec le Gevrey-Nerier cadre. Les concentrations associées à la céramique montrent bien que nous sommes en présence de ramassage. Les céréales sont présentes, essentiellement l'orge nue, mais mal conservées. Cette abondance nous rappelle l'importance du ramassage des glands à Boussargues. Dans la maison 3-6, il faut signaler la présence d'une galette carbonisée dont l'observation montre qu'elle est constituée d'orge. Sur la photo 15, le cuivre est assez abondant sur le site de Rocher du Causse. Il est représenté essentiellement par de la parure, no notamment des petits anneaux formant des colliers. La maison 14 a fourni 16 anneaux et le secteur 1 en a fourni 19. Tous ces anneaux sont groupés, faisant dire qu'on est en présence de petits colliers. Parfois, plusieurs anneaux sont soudés en connexion par l'oxydation. La maison 16 a livré la base d'un petit poignard, tandis que le secteur 10 a fourni un fragment de hache plate, ainsi que la base d'un outil qui pourrait être la base d'un ciseau. La parure est abondante pour un habitat. En plus des perles en cuivre, il faut noter l'abondance de dents de canidés perforées, ainsi que plusieurs petits galets transformés en pendentifs. Les datations sont au nombre de 8, croquis 17. Associées à celles de Boussargues, elles montrent par ce graphique que ces deux sites doivent être contemporains. Les mensurations effectuées sur l'ensemble des structures circulaires connues montrent qu'elles rentrent toutes dans une fourchette fine. Les diamètres peuvent varier de 20 cm, ce qui est minime vu leur état. Les études effectuées sur l'architecture vernaculaire de la région de Nîmes par M. Roustan montre une très grande diversité quant aux dimensions ou aux épaisseurs de murs. Cette constatation nous amène à nous demander si tous ces sites possédant des structures circulaires associées à une enceinte n'ont pas été bâtis à partir d'un modèle standard qui a pu circuler dans la région. Dans cette optique, on peut se considérer que ces sites sont contemporains. L'étude des différents villages possédant une enceinte nous a montré que l'occupation de ces villages est peu importante en nombre de maisons, mais laisse toujours une place importante à l'intérieur de l'enceinte. Associé aux moutons, on pourrait être en présence d'habitats spécialisés dans l'élevage des ovins, telle une bergerie. Les photos 19 et 20 montrent un essai de reconstitution à partir d'une maquette du site du Rocher du Causse.